à tous, vous êtes bien sur Radio Pulse 90 FM Alençon et je suis avec Héloïse.
Salut.
Comme d'habitude, c'est de l'actu, de la musique, des interviews. Vous pouvez aussi nous écouter aux alentours d'Alençon sur 90 FM et dans le reste du monde sur notre site internet radiopulse.fr. Oh, je suis essoufflé parce que je viens de courir. Excusez-moi.
On fait du sport aussi chez Pulse.
Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez nous rejoindre et communiquer avec nous via les réseaux sociaux. Nous sommes sur quel réseau ?
Insta, Discord, Facebook.
Waouh, super.
Waouh.
Toutes les actus, les musiques, les albums à gagner se font sur la page Facebook de celle de la locale. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des nouveautés et des thèmes de l'émission à l'avance.
Et ce soir, c'est l'interview de Ixia, peintre, et de son compagnon Jean-Luc, photographe. Ils seront tous les deux en exposition à la Tour Ouvre dans l'Orne à partir du mois de juillet 2021. Et tout de suite, ils nous expliquent leur art et comment ils fonctionnent, et ainsi que leurs expositions qui, si le Covid le permet, seront bien là. Il me semble que vous avez exposé en août dernier à Verneuil-sur-Avre vos peintures et vos photographies. Comment s'est passée cette exposition avec la crise sanitaire qui était déjà présente ?
On n'a pas eu tellement de difficultés pour faire venir, pour que les gens circulent. Mmh. Parce qu'en fait, c'était une grande salle. On avait fait un circuit fléché. Mmh. Mais de toute façon, on n'avait pas plus que 10 personnes à la fois. Donc, ça s'est très bien passé. Et puis, la mairie nous avait fourni du matériel de désinfection, pas mal de choses. Donc, les gens étaient très respectueux. Mmh. On avait mis un panneau à l'entrée pour que les gens gardent leur masque, et en fait, ils l'ont fait. Mmh. Et d'autre part, systématiquement, ils se mettaient du produit sur les mains. Et en fait, il n'y a eu vraiment aucune difficulté. C'est pour ça que je ne vais pas polémiquer, mais c'est pour ça qu'on peut se poser la question pourquoi on ferme des petits endroits comme ça alors qu'il n'y a jamais une foule immense qui visite. Oui. Et c'est vrai que pour nous, ne pas pouvoir exposer, effectivement, vous avez raison, on n'a pas pu exposer depuis le mois d'août l'année dernière.
D'accord.
Alors, c'est vrai que...
Non, mais je suis d'accord qu'on pourrait ouvrir des lieux culturels avec juste le masque, le gel hydroalcoolique, à la limite diminuer le nombre de personnes et ça le ferait totalement.
Oui, puisque les œuvres sont exposées dans des vitrines, sur les murs, donc les gens n'ont pas à les manipuler
en
fait.
En plus, c'est peut-être même moins dangereux que d'aller faire ses courses.
Exactement. Et puis du coup, c'est vrai que à l'époque, au niveau de la culture, l'année dernière, ça a été très très appauvri, on va dire l'offre. Mm-hmm. Et du coup, notre exposition à l'église Saint-Laurent a eu du succès parce que les gens étaient contents de se mobiliser pour venir découvrir de l'art. Et donc, on a eu entre 600 et 700 visiteurs.
D'accord.
Donc, ça a eu un bon retentissement dans la région.
C'est, on va dire que c'est le côté positif du Covid, c'est que...
Exactement. Et peut-être un petit peu cette année, ça va être pareil. C'est pour ça que l'exposition de cet été, j'espère, va mobiliser le public autour de nos propositions artistiques.
Ben, on espère. Et sinon, vous deux, comment vous est venue la passion pour toi, Ixia, de commencer la peinture et Jean-Luc, la photographie ?
Alors moi, je suis née dans une famille d'artistes. Mmh. Mon père est peintre professionnel. D'accord. Donc, comme beaucoup d'enfants d'artistes au départ, on se dit peut-être qu'on va faire autre chose. Moi, je voulais me consacrer à l'écriture. Mmh. Et en fait, je m'intéressais beaucoup à la bande dessinée côté scénariste.
D'accord.
Et donc, après des études de lettres modernes, j'ai fait un jour un stage à la FNAC de bande dessinée. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à ressentir une envie de créer dans le côté visuel, pas seulement l'écriture. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours du soir avec mon père en atelier. Mmh. Et j'ai commencé les cours de dessin. Et un an après, donc je travaillais la journée en librairie et le soir, je prenais des cours.
D'accord.
Et donc, à 25 ans, j'ai commencé la peinture et c'est là que ça a été la révélation. Et j'ai commencé à exposer professionnellement en 2006. Et ça fait 15 ans maintenant et je n'ai pas arrêté.
D'accord. Et vous n'avez jamais voulu le garder qu'en passion ? Vous voulez que ce soit votre métier ?
Oui, exactement. Pour moi, la peinture, ça a vraiment été un moyen de trouver ma place dans la société, en fait.
D'accord.
Je me sentais utile et du coup, ça a été un moyen de me lier aux gens. et de garder le côté narratif que j'avais en écriture, mais du côté visuel.
Mmh, d'accord.
Voilà, chacune de mes œuvres raconte des histoires. Et pour moi, c'est très important d'avoir ce fil de lecture et ces différents niveaux que le public découvre au fur et à mesure des expositions. Et
justement, tu t'inspires de récits et d'histoires ou c'est des histoires que toi, tu t'inventes ?
Exactement, en fait c'est une bonne question, c'est les deux. C'est vrai que j'ai beaucoup commencé avec les contes connus, on va dire, les contes de Grimm, d'Andersen, mm-hmm. et des histoires aussi qui sont moins connues du grand public, mais qui sont issues de cultures plus asiatiques, populaires. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à créer mes propres histoires. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on a un univers dans lequel les gens peuvent retrouver en fait des éléments universels qu'ils connaissent déjà, mais avec une interprétation personnelle.
D'accord. Et du coup, pour la photographie, comment a été l'histoire du côté de Jean-Luc ?
En fait, ma mère était photographe, donc très petit... Je suis parisien, je le suis toujours. On faisait chaque jeudi à l'époque, c'était le jour des enfants. Mm-hmm. Ma mère nous emmenait, mon frère et moi. On descendait à une station de métro et autour du métro, on faisait le tour et on se baladait dans les rues, on voyait les monuments. Et très tôt, j'ai vu ma mère et quand elle est décédée, d'ailleurs, elle m'a laissé une très très belle collection photographique, mm-hmm. sur Paris et sur autre part, parce qu'en fait elle avait le goût des voyages, elle me l'a donné, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait de photos, j'ai le malheur de perdre ma collection photographique, et c'est vrai que c'est grâce à Ixia que j'ai rencontré dans une exposition qui lui a à elle dans le Tarn-et-Garonne.
D'accord.
Elle exposait ses peintures, on a discuté, en fait, voilà. Et quelques années après, nous sommes tous les deux ici à Verneuil-sur-Avre. Ce que j'aime beaucoup dans Ixia, c'est qu'elle m'aide, parce que mes photos sont des photos retravaillées. Mm-hmm. Donc, en fait, mes photos, je les travaille comme si c'était soit des aquarelles, soit des peintures à l'huile. Alors, c'est assez bluffant, parce que beaucoup de gens ne croient pas que c'est de la photographie. Mm. Mais ce sont bien des photos et au fil des expositions, en fait, j'ai toujours un thème. Là, à Tourouvre, le thème, ce sera sur les femmes. Donc mmh. en fait, à la fois ce sont des archives et à la fois ce sont aussi des personnages qui sont contemporains. Mmh. Et pour moi, la photo est une prolongation de toutes ces qualités qu'un artiste doit avoir. En fait, c'est mon premier métier, c'était paysagiste. Mm-hmm. Les Chinois disent toujours, quand on sait faire un jardin, on sait faire des photos. On sait dessiner, c'est ce qu'ils disent, on sait dessiner. Donc, tant qu'on ne sait pas dessiner, en fait, on n'est pas capable, l'œil n'est pas capable de transcrire sur un support ce que l'artiste voit.
D'accord.
C'est facile d'être photographe, mais ce n'est pas facile de retranscrire sur une page ce que vraiment l'artiste voit. Mm. Et avec le temps, quand je regarde mes premières photos, je me dis qu'à une époque, j'étais photographe, maintenant, je suis vraiment artiste.
D'accord, une différence.
C'est ça qui est vraiment différent.
Comme on dit artiste peintre, artiste photographe.
Voilà. Oui, d'accord. Donc en juillet, vous allez exposer au Muséal de Tourouvre dans l'Orne. Est-ce que vous pouvez rappeler les dates exactes et est-ce que vous pouvez me décrire un peu et me parler de cette exposition qui va venir ?
Oui, alors donc normalement, puisqu'on met toujours des guillemets maintenant sur les dates, mmh. mais si tout va bien, l'ouverture se fera le 9 juillet.
D'accord.
Et donc l'exposition temporaire se tiendra pendant toute la saison, donc jusqu'à la fin octobre. Mm-hmm. Donc sur le site des Muséales, toutes les informations seront mises en ligne en temps et en heure. D'accord. Et donc en fait cette année, les Muséales proposent une exposition donc, sur le thème « Être une femme dans les années 50 ». D'accord. Un événement qui aurait dû avoir lieu en 2020 et à cause du Covid, ça a été repoussé. Mmh. Et donc, ce qui est une chance pour Jean-Luc et moi, puisque finalement, on se greffe à l'événement, puisque les muséales vont recréer dans une salle l'intérieur d'une femme des années 50. Mmh. Toutes les pièces avec voilà, toute l'ambiance d'époque.
Le mobilier, les vêtements.
Mmh. D'accord.
Donc,
et du coup, nous, on a une autre exposition donc, qui est en lien avec ce thème. Où moi, je vais proposer une. Ce seront que des nouvelles œuvres.
D'accord.
Donc, on travaille actuellement, Jean-Luc et moi, sur le montage de cette exposition. Donc moi, je présenterai une série en fait de sept grands tableaux, mmh. donc inspirés des sept péchés capitaux, donc dans le thème général, et avec un retranscrit dans les années 50, donc au niveau des couleurs, au niveau des vêtements, et surtout en fait l'angle que j'ai choisi dans ces peintures, c'est plus la vision en fait de la petite fille ou de la jeune fille sur la condition féminine de l'époque.
Okay.
Donc, quelles sont les propositions pour les femmes dans ces années-là? Et à la fois, c'était une époque de bouleversement, de révolution, et à la fois, on était dans un certain carcan aussi. Mm. Donc, comment sortir de tout ça? Et c'est vrai que c'est des interrogations qui nous concernent encore, en fait, je pense.
Oui, bien sûr.
Voilà, je présenterai aussi une série de photomontages, et Jean-Luc, bien sûr, une série de nouvelles photographies sur ce thème.
Alors, ce qui est intéressant dans les muséales de Tourouvre, je pense que c'est un petit musée, mais petit musée par sa surface, mais grand par ses inspirations, parce qu'en fait, si on se rappelle bien de l'histoire de Tourouvre et de toutes ces personnes qui ont émigré en Amérique du Nord, c'est vrai qu'il y a un public, j'espère qu'on va l'avoir cet été, j'espère beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui viennent, beaucoup d'Américains, il y a des Japonais aussi. C'est vraiment un musée qui est ouvert sur le monde.
D'accord.
Et notre exposition va nous permettre de prendre un thème qui est un peu universel, mais en impliquant des femmes qui ne soient pas forcément des femmes européennes. Mmh. C'est aussi des femmes transatlantiques, c'est aussi des femmes transpacifiques. Et c'est vrai que grâce à ça, on, nous deux, on a vraiment un travail qui est très intéressant. Quoi. Ouais. Parce que, et comme disait Alexia, on a la chance d'avoir pu être greffé sur cette manifestation, mais heureusement, parce que ça te demande énormément de travail et je pense que c'est bien qu'on ait attendu un an de plus. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Ixia, tu as peint et tu peins énormément de femmes. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est des femmes que tu connais ou que tu imagines?
Alors en fait, quand j'ai commencé la peinture, ce qui m'a fait devenir artiste, c'est la découverte des minorités ethniques du nord du Vietnam. Mmh. Et en fait, dans ces populations, moi j'ai toujours été attirée par la couleur, les broderies, les tapisseries, les motifs. D'accord. Et en fait, ce sont les femmes qui portent sur leurs vêtements tout ce qui m'intéressait le plus. Et ça a été naturel pour moi de commencer à m'intéresser à cette figure féminine à travers l'histoire du vêtement et des traditions. Et c'est vrai que j'ai gardé ce motif. J'ai des inspirations masculines, mais qui sont beaucoup plus rares, c'est vrai. Mais c'est, du coup, je m'intéresse à la figure féminine peut-être d'une autre manière, puisque je suis une femme peintre. Donc c'est un autre œil sur le corps féminin, sur les aspirations féminines. Et pardon, où ça?
T'as exposé là-bas?
Oui, où ça?
En Asie?
Ah oui, en Asie, oui, bien sûr. Oui,
c'est important.
Oui, j'ai commencé. C'est vrai que très vite, j'ai exposé à l'étranger, mm-hmm. et surtout au Brésil et en Chine. Et du coup, comme je m'intéressais aux cultures, on va dire, pas forcément européennes au départ, quand j'ai présenté par exemple les jeunes beautés des années 20 à Shanghai, c'était un thème qui est très connu là-bas, mais avec une peinture plus européenne.
D'accord.
Et très personnelle. Donc c'est vrai que ça rencontre du succès. Et c'est à la fois une peinture, on ne va pas dire très française, mais quand même. mais qui parle en fait au monde entier.
Oui,
c'est
voilà,
pour ça que j'ai des, voilà, j'ai des acquéreurs russes, belges, d'Amérique du Sud, de Taïwan, parce que c'est une peinture dans laquelle, en fait, dans laquelle les gens, je pense, arrivent à se projeter. Parce que je travaille beaucoup le figuratif, mais d'une manière où il y a des fonds souvent plus abstraits qui laissent la part à l'imaginaire, au public qui regarde le travail.
D'accord. Et est-ce que pour vos inspirations photos et peintures, des fois, ça vous arrive de travailler ensemble, de communiquer sur certains thèmes, ou est-ce que vous, c'est toujours séparé?
Oui, bien sûr. De toute façon... oui, et puis c'est vrai que notre binôme nous permet aussi de rencontrer d'autres artistes. C'est vrai qu'on a... Et puis ce qui est très intéressant quand on est un couple d'artistes, c'est qu'en fait, l'œil de l'un travaille pour l'autre, quoi. Mm-hmm. On est très exigeant, Ilka est très exigeant sur mes photos, et elle a souvent raison, quoi. Et c'est vrai que cette façon de travailler nous permet d'avoir beaucoup d'humilité et de pas faire n'importe quoi. Il y a trop d'artistes qui font un peu n'importe quoi, mais c'est pas leur faute, parce que nous, on a vraiment cet avantage d'avoir un œil, quoi. On a toujours un œil en permanence.
Et la chance d'avoir un œil professionnel, avec une aptitude à pouvoir aider l'autre à aller plus loin dans sa création.
D'accord.
Parce que Jean-Luc fait de la photo, mais quand il était jeune, il a fait beaucoup de peinture. Mm-hmm. Et moi, à l'inverse, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de photos de manière amateur.
D'accord.
Et donc, en fait, nos deux points de vue se répondent. Mm-hmm. Et techniquement, on peut, je pense, apporter beaucoup à l'autre.
Mm. Et on est vraiment deux artistes. C'est-à-dire, on fait que ça. On n'est pas... On n'est pas des artistes du dimanche, c'est-à-dire qu'en fait, notre, pour ça qu'on souffre énormément en ce moment, c'est que notre vie, elle est vraiment, c'est une vie essentiellement artistique. Nous sommes des artistes, quoi.
Donc dans la création pour un public.
Et c'est vrai que ça permet de rencontrer d'autres artistes qui sont vraiment des artistes. Il y a tout un milieu en France qui est très riche, quoi, qui est beaucoup plus riche que ce que l'on voit souvent dans beaucoup d'expositions, quoi.
Oui, bien sûr.
Il y a beaucoup de gens qui peignent, qui font des photos, qui sont des sculpteurs, qui sont des réalisateurs, des danseurs.
Oui, j'allais justement.
Pas mal d'activités. Et ces gens-là, ils sont dans leur petit coin. Et nous, on a des difficultés souvent, c'est que on paye tout, quoi. Oui. Et on paye tout. Et en plus, si ça marche pas, on a payé. Alors. Il y en a d'autres, ils ont les moyens de payer, ils exposent et en fait, il n'y a aucune incidence. Mm. Alors, je ne dis pas, est-ce que ce n'est pas plus intéressant des fois d'aller à l'essentiel? Parce que ça nous permet vraiment dans les expositions d'aller à l'essentiel, quoi. De donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on mérite, tout ce que les gens méritent de regarder, de voir.
Bien sûr.
Et c'est vrai que
c'est un investissement personnel à 100%, c'est... en fait.
Comment, du coup, vous avez vécu ces confinements, et même maintenant, ça fait un an aujourd'hui que tout est un peu au ralenti. Vous, comment vous le vivez en tant qu'artiste, vous?
En fait, je vais laisser parler après. En fait, le premier confinement, on l'a pas mal vécu. Moi, j'avoue que je l'ai pas mal vécu.
Moi, un peu plus que Jean-Luc.
Un peu plus. Bon, on a l'avantage aussi... d'habiter dans une ville de Verneuil-sur-Jura, qui est une ville assez fantastique, au niveau des gens qui y vivent, de sa géographie, de son architecture. On venait plus ou moins d'y arriver en partant de Paris. Et c'est vrai que moi, personnellement, il faisait beau. On a fait des choses, on a entrepris d'autres choses qui étaient du domaine. On a fait un potager, par exemple, on a fait des choses comme ça. Mais c'est pas le confinement qui est plus difficile, je pense, c'est la façon dont il est géré. Mmh. Et ça, c'est complètement anormal, parce qu'il y a des branches de la société qui sont beaucoup plus aidées, qui sont beaucoup plus soutenues.
Oui.
Et il y a toutes ces cultures
restauration.
On se pose des questions.
C'est l'art de vivre à la française, en fait.
On se pose des questions, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'interdire le plaisir aux gens, quoi.
Après, honnêtement, le petit traumatisme, on va dire, l'année dernière, ça a été le non-essentiel. Je pense que là, en tant qu'artiste, moi, j'ai même eu des collectionneurs au téléphone, puisqu'on ne pouvait pas se voir en vrai, donc on ne pouvait que s'appeler, et qui me disaient, mais moi, on ne m'a pas demandé ce qui était essentiel ou pas pour moi. Et pour moi, la culture, l'art, c'est essentiel.
Mais bien sûr.
On a besoin de ça, donc pour vivre, pour ne pas être seulement des robots, quoi.
Exactement. Non, mais
donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Mais je pense que du coup, ça a permis au public aussi de se manifester vis-à-vis de nous et de nous dire à quel point on était important pour eux. J'entends beaucoup ça avec d'autres artistes dans la danse, dans le théâtre, dans le cinéma. Et c'est vrai que l'art, on est deux. Hein. On est le créateur et le public.
Bien sûr.
Ça ne marche pas l'un sans l'autre.
C'est vrai. Et voilà, c'était l'interview de Ixia et Jean-Luc, artistes, photographes et peintres qui seront en expo au mois de juillet 2021 dans l'Orne.
Cette radio fait partie de la Ferraroc, la fédération des radios associatives Musique Actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferraroc.org.
Et le nouvel album à gagner de cette semaine, c'est Mantra de The 13th Hall, sorti le 13 mars 2021 sur West Music Industry. Le groupe franco-italien The 13th Hall présente son 7e album Mantra, étape d'une traversée constante mais en mouvement perpétuel. Mantra est une prière désenchantée, portée par un rock abrupt qui se laisse adoucir par des arrangements aux accents 60s. Il fait quelque chose d'intemporel et d'urgent, de transfrontalier. Un rock frontal qui accepte de flirter avec le post-rock et le garage, et la musique taraude comme les pensées de la chanteuse. Les morceaux offrent une respiration, un ailleurs dans une montée collective. Il y a quelque chose de l'ordre du refus, de la complaisance d'abord. Ici, l'amour se vit dans la douleur. Incontestablement, la musique accepte de buter d'abord sur le motif pour l'emporter et le transformer. Une musique pure et tranchée qui accompagne un chant au goût empoisonné. Tout de suite, nous allons écouter leur morceau qui s'appelle « Blood and Pain ».
Exchange of notes, we write on papers, we draw, and we talk, we talk, we talk.
Et maintenant, c'est notre rencontre avec Vaisosa, artiste tatoueuse, voilà, que nous avons pu rencontrer aujourd'hui, dont nous avons eu un bon échange. Bonjour Vaisosa.
Bonjour Rémi.
Parle-nous un petit peu de tes débuts artistiques.
Oula, alors mes débuts artistiques ont été assez chaotiques. Alors, où est-ce qu'on peut marquer le début ? On va pas dire que blablabidou, je dessine depuis que je suis gamine, parce que ça, c'est un petit peu tous les tatoueurs de vocation, on va dire, qui vont dire ça. Mais on va dire que ça a commencé à sincèrement me travailler vraiment fin collège, et que j'ai pu commencer vraiment à exercer ce que je voulais. À peu près 3 ans après le bac, donc vers 19 ans, j'ai pu enfin mettre le pied dans le milieu du tatouage. Et ça n'a pas été très très simple au début. J'ai eu un apprentissage un peu chaotique pour enfin déboucher 2 ans plus tard sur une embauche dans un vrai shop. Voilà.
D'accord. Et tu as passé des diplômes ou pas, à part le bac ? Est-ce que tu as fait les beaux-arts ou...
Pas du tout. C'est tout en autodidacte. À bouffer du dessin matin, midi, soir. Je ne vivais que pour ça. C'était pas forcément le plus drôle, mais c'était vachement sympa quand même.
Tu es une artiste, mais aussi tatoueuse. Comment se passe une journée type pour toi ?
Alors, une journée type, en général, c'est debout vers 8h, 9h. En général, au shop, entre 10h30 et 11h, j'accueille mes premiers clients à ce moment-là. Et j'ai tendance à faire un, voire deux tatouages par jour, parce que j'aime bien prendre mon temps. Sinon, c'est debout, arriver au shop, préparation de tout ce qu'il faut, lavage intensif des mains, un nombre de fois assez incalculable. Donc préparation de tout ça, accueil du client, discussion, préparation du carbone, donc déjà validation du dessin forcément si ça n'a pas été validé avant par mail ou en face à face. Et puis un petit tatou, explication des soins à la fin de la session et voilà.
Ok, moi maintenant je vais parler de comment est-ce que je t'ai connu. Je t'ai connu grâce à ton compte Instagram du même nom, Vaisosa. Ouais. Qu'est-ce que t'apportent les réseaux sociaux à l'heure actuelle ?
Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai que la grande majorité des tatoueurs vont passer par Insta ou par peut-être d'autres réseaux. Il y a pas mal de petites applications qui sont en train de se créer, de sites qui sont en train de se créer justement pour allier un petit peu la galerie photo, les flashs, etc. Mais en général, Instagram, ça va nous permettre de nous faire connaître, de pouvoir faire un petit peu tourner nos dessins, même s'il y a un fort risque de plagiat qui vient par vague en général. Mais c'est vrai que c'est l'outil qui va nous permettre le plus facilement, en plus avec le Covid, de présenter notre taf, de faire un petit portfolio un peu sympa pour les clients qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce qu'on fait.
D'accord, et ça peut aussi servir du coup de vitrine ou même de book pour les futurs employeurs.
Ça peut aussi servir de book en effet, quand tu veux chercher une nouvelle résidence ou alors simplement des guests. Quoi. Ouais.
On reparlera des résidences un petit peu plus tard. Tu travailles sur différents matériaux, j'ai vu, tu as fait de la peinture sur veste en cuir, du dessin sur papier, caricature, dessin graphique et même de la peinture sur objet. Pourquoi être diversifié et ne pas se concentrer uniquement sur une forme d'art précise ?
Alors, parce que depuis très 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 longtemps, j'ai ce petit problème de vouloir expandre un petit peu mon univers sur tout ce qui est possible et imaginable. Donc, le moindre truc avec une surface à peu près lisse, voire poreuse, je vais essayer d'y foutre ma patte dessus, parce que c'est quelque chose que j'adore, et voir comment est-ce que je peux adapter mes traits à différents médias.
D'accord. On va parler maintenant, si ça ne te dérange pas, de ta profession de tatoueuse. Comment est-ce que la Covid-19 t'a impacté ?
Comme à peu près tout le monde, donc premier confinement, forcément, ça nous est tombé un petit peu sur le coin du nez. On a dû arrêter nos professions tous un peu. Ça a été assez flippant, parce qu'on ne savait pas trop dans quoi on allait rentrer, si on allait pouvoir survivre de ça, combien de temps ça allait durer. Alors forcément, ça nous a impacté parce que nos clients, c'était autant dans le bousin que nous, à pas forcément pouvoir aller bosser eux-mêmes, ne pas ramener d'argent. Forcément, le tatouage étant quand même un luxe, c'est plutôt compliqué. Donc on a tous un petit peu essayé de gagner notre pain comme on a pu, à vendre en général du merch, des prints, tout ça, et à essayer de s'en sortir un petit peu avec de l'entraide. Il y a eu une grosse entraide entre tatoueurs à ce moment-là. Ça a été très très cool d'ailleurs.
Comment arrives-tu à faire subsister ton shop ?
Alors, pour l'instant, je suis plus en shop parce que j'ai dû déménager, mais ça, c'est pas vraiment le truc. Après, subsister le shop, hein, forcément, c'est là. En prenant par exemple l'exemple de mes collègues en ce moment, c'est à cause du couvre-feu. Nous devons logiquement nous lever un petit peu plus tôt, histoire de pouvoir espérer finir nos séances avant la fin de la journée, parce que selon la taille du projet, ça nous prend quand même plusieurs heures, et commencer un tatou à 13 heures ne peut pas nous donner l'occasion de le terminer avant 18 heures. Donc c'est juste simplement un peu plus de taf et des journées qui commencent un peu plus tôt, qui sont un peu plus chargées, un peu plus speed.
Ok, je vais peut-être maintenant poser une question un petit peu conne. Est-ce que il est possible pour des tatoueurs d'aller directement chez la personne pour se faire tatouer ?
Alors ça, techniquement, ça ne devrait pas. Techniquement, ça ne devrait pas. Dans le milieu, on n'est pas du tout friand de ça. Disons que non, c'est dans la légalité de la chose. Tu ne peux même pas te tatouer chez toi. Même si tu as une pièce totalement réservée à ça, tu ne peux pas légalement tatouer chez toi pour des raisons d'hygiène. Tu dois avoir un local prévu à cet effet. Et en général, je déconseillerais à n'importe qui de se déplacer ou de faire déplacer quelqu'un chez soi. Voilà.
D'accord. Donc si jamais j'ai envie de me faire tatouer, il faut impérativement que j'aille en shop.
Franchement, c'est un conseil, oui.
Mais c'est un bon conseil que nos éditeurs peuvent prendre note. Ne vous faites pas tatouer par des scratchers. Je pense que tu seras d'avis avec moi.
Oui, exactement.
Maintenant, je vais te poser des questions un petit peu plus fun. Je le fais toujours en fin d'interview.
Ouais.
Si tu devais faire une collaboration avec n'importe quel groupe, je sais pas moi, un artwork ou bien faire une affiche pour une convention, tu choisirais qui, pourquoi et dans quelles circonstances ?
Oh là là, putain, cette question, elle est trop cool, mais bordel ! J'ai trop de références, j'ai trop de gens avec qui je pourrais collaborer. Alors, en vrai, je sais pas pourquoi, parce que de base, c'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais je ne sais pas pourquoi, j'aimerais énormément faire l'artwork d'un album de black metal. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, l'ambiance black metal est assez, assez glauque pour que je pense que je puisse m'amuser énormément. Sinon, malheureusement, à l'heure actuelle, ils sont séparés, ils ne réapparaissent sur scène que pour certaines occasions. Ce serait peut-être Bauhaus. Tiens, j'aimerais beaucoup faire une affiche pour Bauhaus. Ou je sais pas, pour un ou deux festivals que j'aime bien, type Wave Gothic très fun, ou le Mera Luna, ça pourrait être cool. Tiens, pour Nick Cave aussi, j'aimerais bien faire un petit artwork pour Nick Cave. Voilà, ça va beaucoup se globaliser autour de tout ce qui va être post-punk, new wave, death rock, tout ça. J'aimerais énormément collaborer avec ces gens-là.
Un univers très gothique en somme.
Ouais, c'est vrai que voilà, je trempe un petit peu de temps depuis l'enfance, donc ouais, ça ne m'a jamais quitté.
Si jamais il y a une personne, je pense par exemple à une collégienne ou un lycéen qui vient de poser des questions sur ta profession de tatoueuse et d'artiste en général, si tu devais leur donner un conseil pour se lancer, pour justement... Y a-t-il un conseil que tu aurais aimé avoir que tu n'as pas eu pendant que tu étais dans ces milieux-là ?
Alors, un conseil que je n'ai pas eu, majoritairement tous, vu que je me suis démerdée un peu seule, bien que j'ai eu la chance d'avoir un mentor, Loïc, Mister École, un tatoueur traditionnel japonais que je respecte énormément et que j'apprécie énormément aussi, qui m'a beaucoup aidée. Les conseils que je pourrais donner et que je donne en général quand on me contacte à ce niveau-là, ça va être de de rien lâcher, en fait. C'est très compliqué de se lancer dans le milieu artistique, parce que c'est encore un milieu qui n'est pas vraiment reconnu. Aux yeux du gouvernement, on a encore un peu des bras cassés, hein. Même les artistes ou les tatoueurs, hein, surtout les tatoueurs. Du coup, ben, ça va être vraiment l'entraînement. Ça peut paraître contre-intuitif, mais si tu as envie de dessiner que des visages, il faut que tu dessines autre chose à côté. Parce que grâce à ces autres choses, tu vas pouvoir apporter quelque chose de différent à ta pratique au niveau des visages. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup d'acharnement, en fait. Beaucoup d'acharnement. Mais quand même, il faut réussir à trouver le juste milieu et à pas faire un gros burn-out, quoi. Parce que sinon, ça revient à peu près au même.
Okay, voilà. Merci. Ton style de dessin favori, tu dois en choisir qu'un seul.
Mon style de dessin favori, je dois en choisir qu'un seul. Bah, partons dans le surréalisme. Le surréalisme. Disons surréalisme polonais, tiens, voilà.
C'est précis, donc.
Ouais. Bah, Beksiński et compagnie, ça a été, on va dire, en tout cas, à partir des années 90, un grand mouvement qui s'est créé. Et bah, suite, malheureusement, au décès du papa, un petit peu du genre, Beksiński, qui s'est fait assassiner. Les gens ont découvert la beauté à travers ça, la beauté un peu sombre. On l'appelle souvent le peintre des cauchemars. Parce qu'il peignait l'inconscient, donc forcément, ça m'inspire énormément.
D'accord. Et il y a aussi une certaine inspiration de Giger, je trouve, dans certains de tes dessins.
Oui, il y a ce côté très biomécanique. J'aime beaucoup Giger, j'aime beaucoup forcément ses formes. Assez surréaliste au final, surréaliste de l'espace, on va dire. Non, j'aime énormément Giger, en effet, bien joué. Tu as décelé une de mes inspirations.
Waouh, je suis flatté. Tu as parlé de résidence tout à l'heure. As-tu déjà pensé à faire une résidence artistique ?
Alors, j'y ai déjà pensé, mais je ne l'ai jamais réalisé. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tente très bien. C'est un concept qui m'a toujours un peu fait triper. Donc, ouais, j'aimerais bien. C'est vrai que j'ai encore jamais lancé vraiment le projet en concret, mais peut-être qu'un jour je pourrais. C'est vrai que ça m'emballe pas mal.
Et maintenant, si tu devais te dire quelque chose à toi plus jeune, tu lui dirais quoi ?
Bouge-toi le cul.
Génial.
Lâche rien, bouge-toi le cul.
Des projets pour 2021 ?
Alors, des projets pour 2021, ça me ferait plaisir de pouvoir avoir mon petit coin à moi, mon petit shop à moi, afin de pouvoir accueillir mes clients dans un espace safe, propre et tout, pour pouvoir déjà être en mode sécuritaire vis-à-vis du Covid, parce que forcément, dans un grand shop, ça fait toujours un peu plus de brassage et ça met pas des gens en danger non plus, mais c'est plus pratique d'être en face-to-face. C'est plus sécuritaire aussi pour certains clients qui peuvent être très pudiques ou un peu malaise social. Donc, moi, je voudrais bien ouvrir mon petit truc et puis je vais aussi mettre un petit coup de cravache au niveau de la peinture à l'huile, parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de peinture à l'huile et j'ai bien envie de poncer un peu le sujet.
Super. Et du coup, où peut-on te retrouver ?
Eh ben, on peut me retrouver sur Instagram, du coup, avec le pseudonyme que tu as donné au début de l'interview, donc Viceosa. On peut me trouver un petit peu sur pas mal de plateformes. J'ai un Inprint, pareil, toujours le même pseudonyme, on peut pas se rater. Facebook, pareil. J'ai mon petit mail pour le booking, viceosatatou@gmail.com. Sinon, Big Cartel et Redbubble. Bonjour.
Et voilà, merci à Viciosa pour notre échange d'aujourd'hui. Et tout de suite, c'est un morceau du groupe Bauhaus qui s'appelle The Patience of Lovers, sorti sur l'album Masque de 1981 que nous allons vous diffuser.
Radio Pulse,
c'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne au cours de route.
Bien, 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 bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui, oui, oui.
Moi, je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est les testicides.
Oh,
faut arrêter les testicides.
Ah,
la Radio Pulse.
Bien, bien,
la
bien.
La radio
bien.
Qui vous nique les oreilles.
Bien, 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 bien.
The passion.
Cette radio fait partie de la Ferraroc, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferraroc.org.
Et l'album à gagner de cette semaine, c'est Mercenary de Luis Mezzatsoma, sorti le 5 mars 2021 sur Dirty Old Blues. Trajectoire ascendante que celle de Luis Mezzatsoma qui, d'album en album, ne cesse d'affiner son art. Ce garçon galope au pays des musiques qui grattent, entre blues ouvert à tous les vents, country folk et roots rock. Inspiration sereine, habitée, viscérale, jubilatoire et dénuée d'artificialité. Chez lui, un besoin d'expulser l'intime, de faire jaillir l'ombre à la lumière, le plaisir du jeu aussi, la recherche d'une harmonie, d'un langage commun entre les instruments et le chant. Mercenary dessine un road trip émotionnel et personnel. Il s'imprègne de ses expériences de concert, de ses voyages et de ses rencontres. Tout de suite, nous allons écouter son morceau qui s'appelle Mercenary en featuring avec Jean-Marc Henault.
I am a mercenary. Slow as a man with a donkey in a barrel.
that's where I met my mentor. He taught me how to kill and run. This is how I became a son of a gun. I am a mercenary, running for money. I just want a salary. No matter if I kill your family. No mercy, no matter who you might be, no matter if you're my friend or my enemy, I am a
Et voilà, c'était le morceau qui s'appelait Mercenary, issu de nouvel album éponyme de Luis Mezzatsoma, sorti le 5 mars 2021 sur Dirty Old Blues. Et là, là franchement, il faut que je vous parle. Posez tout. Non, je rigole. C'était juste pour vous dire que mon nouvel... Parle bien quand tu veux dire des choses, abruti. Non, c'est juste parce que je veux gagner du temps. Ah, non, qu'est-ce que je fais ? Héloïse, aide-moi. Ah, non, en gros, il y a un groupe que j'affectionne particulièrement qui s'appelle I Had God et qui a sorti son nouvel album le 12 mars, A History of Nomadic Behavior, sorti sur le label Century Media. Et du coup, nous allons écouter, je pense, leur morceau qui s'appelle High Risk Trigger, que j'aime tout particulièrement, et j'attends encore le vinyle par la poste, donc la poste, si vous pouvez me l'envoyer, s'il y a des gens là qui travaillent dans les auditeurs à la poste, vous faites tout pour que je l'aie quand je rentre chez moi, d'accord? Ok, bon, sur ce, c'est High Risk Trigger. We'll be right back. Désolé encore, mes chers auditeurs, de vous en avoir mis plein les oreilles, et encore à ma colistière qui est, je pense, en train de me haïr derrière cette vitrine. Il est 18h58, as-tu un mot à nous dire, Héloïse, avant que nous partons ou pas ?
Absolument pas, juste bonne soirée.
Tout à fait, et bien c'est sur ce bonne soirée, mesdames et messieurs, que nous allons vous laisser. Vous étiez sur Radio Pulse 90 FM Alençon. Radio Pulse 90 FM Alençon, je ne sais pas comment terminer cette émission.
Radio Pulse,
c'est cela.
Ça peut arriver qu'on soit en panne en cours de route.
Bien. On dit ces bêtises quelquefois.
On fait que l'émission radio.
C'est cela, oui.
Moi je lui dis pourquoi pas aussi.
C'est cela, oui.
C'est l'esthéticide.
Oh,
faut arrêter l'esthéticide.
Ah,
la Radio Pulse.
Bien.
La radio qui vous nique les oreilles.
Bien.
Ici ST321, entrée en code bleu. Nous commençons notre approche, désactiver le champ de sécurité.
Ceci est une émission de radio.
Le Trafalgar.
Et l'autre là, quoi qu'il pense,